vous arrive parfois d'avoir vos plans qui sont bousculés. Si vous avez un petit enfant, ça arrive. On est là pour aimer, pour éduquer. On peut avoir une voiture qui a besoin de faire de la deuxième file de gauche, de faire un virage rapide. Il nous fait un coup de poisson, on freine. On loupe sa sortie. On a des imprévus dans la vie. Il nous arrive. Mais ce qui est aussi important, c'est de connaître ce Dieu qui est d'éternité et du ciel voit et nous connaît et qui a un plan. Et là, ces plans sont merveilleux. Et ce matin, nous allons regarder le plan qu'avait Dieu pour David. Où David, en tant que roi, il habite maintenant une maison qui a été construite par Hiram, le roi de la Syrie, un roi en pierre et du bois précieux, du cèdre. C'est comme un palais dans, je sais pas, une belle appart dans le 18e, ou le 16e, plutôt. Et il est là, et il regarde qu'à côté de lui, et l'arche qui a conduit le peuple de Dieu jusqu'ici, il est à Jérusalem, il est à l'aise, mais l'arche est sous une tente. Et David regarde sa belle maison, et puis il voit l'arche sous la tente. Et il dit, en tant que roi qui aimait Dieu et qui voulait le bien pour le peuple, il voulait que l'arche, Dieu, il est un temple en dur. D'ailleurs, dans ses voyages, il avait demandé à Dieu, il s'était donné un vœu, il avait fait un vœu, « Je ne me donnerai pas de repos. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai trouvé une demeure pour l'Éternel. » Et maintenant, il a les pieds sur la table, les panneaux en cèdre, une belle maison, et l'arche est sous la tente. Et c'est là où, au lieu d'être comme Nebuchadnezzar, le premier empereur mondial, qui a fait embarquer les Juifs, les Israélites, en exil, qui a regardé Babylone et a dit « Babylone la grande, c'est moi qui t'ai tapé. » Ou comme Salomon qui avait dit, qui avait pris des femmes. David, il se souciait plutôt de son peuple et la présence de Dieu parmi son peuple qui peut leur faire du bien. Et là, on voit la beauté de ce cœur d'un jeune roi qui avait fui, qui était pourchassé par les ennemis, et maintenant qui est à l'aise. Et plutôt que de se refroidir et de dire « Bon, vous savez, ça va aller. Voilà, on peut oublier un peu les péripéties dans le désert. » Et on se repose. Et c'est là où tout simplement on voit ce cœur. Où Dieu dit, je ne me donnerai pas de repos avant que c'est quelque chose pour Dieu. J'ai fait quelque chose pour Dieu, j'ai gardé mon engagement ou mon vœu pour Dieu. Et c'est là où j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible à 2 Samuel chapitre 7, qui parle de David, qui face à un certain moment dans sa vie, sur les années florissantes, il n'a plus d'ennemis, il est plutôt bien loti, il arrive à être facile d'oublier, mais plutôt au contraire, il se tourne vers Dieu et il n'oublie pas. Et on va voir ce que Dieu fait à la personne qui ne l'oublie pas. quand tout va bien, est-ce que ça peut encore aller mieux? Et c'est là où on retrouve David. Et David qui offre à Dieu un palais. 2 Samuel, au chapitre 7, une existence paisible, plus d'ennemis. Et c'est là où Dieu lui parle. Verset 6. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle, pendant tout le temps où j'ai accompagné les Israélites, et je n'ai jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Mais voici maintenant ce que tu diras à David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je ferai un nom grand, glorieux, comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, j'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété, opprimé comme auparavant. Et puis, comme à l'époque où je l'avais établi des chefs, je t'accorderai une existence paisible en délivrant de tous tes ennemis. Enfin, t'annonce l'Éternel qu'il te constituera une dynastie. Dieu avait été avec David et Dieu est avec vous. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a déjà attiré vers lui. Et comme nous avons chanté ou prié et entendu, c'est peut-être la chose, certainement la chose la plus merveilleuse que Dieu puisse faire. Parce que de le connaître, et d'avoir cette paix, même quand il y a des problèmes dans le pays, quand il y a des ennemis, quand il y a des difficultés, mais de connaître, savoir qu'il y a un Dieu qui nous donne sa paix et sa grâce et qui nous accompagne, est le plus merveilleux. Et c'est là où David à cette assurance. Mais regardons ce que David fait. Premièrement, Dieu le rappelle qu'il était un petit berger et maintenant il est un roi. Il a changé ses collines pour un palais. Et c'était Dieu qui le rappelle que c'était lui. C'était pas David. Ce n'était pas son arc, son épée, sa sagesse, son intelligence, sa force. C'était de Dieu. Et quelque part, si nous sommes là, avec notre intelligence, notre santé, c'est aussi par nous, uniquement, mais Dieu. Dieu donne sa faveur aux humbles. Il n'a pas pris le roi pour en faire un roi, il a pris un berger. Marie, la mère de Jésus, a dit ainsi, « Mon âme s'exalte devant les seigneurs. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend. S'étant d'âge en âge, il a déployé la force de son bras. Il a renversé les puissants de le trône. Il a élevé les humbles. » Et c'est là où, tout simplement, nous voulons rester humbles. Parce que Dieu continue à les élever, les humbles. « et les fait asseoir. Et quand nous sommes trop élevés, parfois on tombe. Mais pas David. On va le voir. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi comme berger. Il est mis dans un temple pour diriger un palais pour diriger le peuple, parce qu'il avait le cœur humble devant Dieu. De deux, Dieu bénit ceux qui sont reconnaissants. Nous avons pu remercier Dieu ce matin pour ce qu'il fait pour nous. C'est à la fois un rappel à sa reconnaissance, mais à la fois aussi, tout simplement, tout naturellement, une occasion de lui dire « Abba, papa, merci, je t'aime, tu as fait énormément de bien à moi, tu m'as affranchi, tu me pardonnes, tu me délivres, tu es là, même quand ça va mal, tu es là, tu m'accompagnes, je te remercie. » Mine de rien, c'est tout. Parce que c'est Dieu, de par sa présence, qui donne la victoire, même dans le désert, même face aux difficultés, il a donné à David pour le former. Et Dieu donc le bénit. Et David va lui dire merci. Or ce matin, simplement, ce que nous avons, comme toute bénédiction, nous avons, c'est pour aussi dire d'une part merci, et d'autre part à Dieu, pour reconnaître que ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui veut bénir, et nous le remercions. Mais il ne s'est pas arrêté. C'est là où le Père est touché par cette offre, où il dit, David dit, je m'intéresse à toi, à ta maison. Et Dieu ne va pas lui donner, tourner l'oreille sourde. Dans le verset 11, « Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constitue une dynastie. » Autre mot, une maison. Toi, tu veux me bâtir une maison, mais moi, l'Éternel, je vais te bâtir. Oh, David, une dynastie, et quand le moment sera venu pour toi, verset 12, de rejoindre tes ancêtres décédés, je t'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. Je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups, des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, comme j'écartais pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Et Nathan, le prophète, rapporta toutes ces paroles à David. C'est ici une tournure d'événement qui est surprenante. David, le petit berger qui arrive, il y a stabilité, il n'y a plus de Philistins, il n'y a plus d'ennemis. Et David qui dit, donc, moi j'habite une palette de cèdre, en bois de cèdre, et toi dans une, sous une tente. Et donc, c'est là où Dieu intervient pour bénir. Et autant que je me réjouis de voir ce que Dieu fait, d'entendre ce que Dieu fait déjà dans nos vies, pour nous faire comprendre qu'il est là, dans nos périples, qu'il nous accompagne, qu'il nous délivre, qu'il nous donne son repos, sa paix, sa grâce, sa force. Autant je sais que Dieu, il a encore en réserve plus, parce qu'il est Dieu, et qu'il veut bénir. Et notre cœur, cette plaque tournante, cette porte qui lui permet d'entrer, quand Dieu veut bénir et quand Dieu promet, comme il a fait pour David, on va voir la réponse et comme est notre cœur. Nous venons pour bénir Dieu, nous venons pour adorer Dieu, nous venons pour chercher sa présence, pour chercher sa face. Et lui, il veut vous bénir, il veut nous bénir encore plus. Il veut les fardeaux qui nous encombrent ou les blessures qui sont encourues. Il veut nous en défaire, il veut nous en délivrer. Il veut nous donner du repos, de la force, de la sagesse, afin de repartir les cœurs plus légers et fortifiés pour bien mener toutes dans la vie, parce que c'est Dieu qui agit par sa présence, par son esprit en nous. Et c'est là qui est un prix inestimable, ce repos qui est réel et véritable, et ce renouveau de l'intérieur, où Dieu lui-même, il touche, il transforme, il donne sa vie. Et là, quand on dit « Dieu, je veux te bénir, je veux te remercier », lui, de l'autre côté, est en train de nous faire du bien. Lui, de son côté, de Dieu et de Père, il est en train de vouloir dire qu'il nous aime, qu'il nous délivre, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la vie, la vraie. Mais regardons comment David en est arrivé là. Tout simplement, en tant que berger, il a dit humblement à Dieu, « Je veux servir, je veux aimer, je veux répondre à qui tu es Dieu, qui m'a fait du bien. » Et c'est Dieu qui a voulu bénir davantage. Et c'est ainsi que David a marché avec Dieu. A-t-il gardé sa promesse, Dieu ? A-t-il fait du nom de David un nom qui est grand ? Peut-être vous voyez encore l'étoile de David flotter. Ou les autres rois du pays qui étaient comparés à David, pour le bien ou pour le mal, ils étaient bien et marchaient dans les voies de Dieu comme David. Ou non, pas comme David. Est-ce que Dieu a gardé sa parole pour garder une dynastie pour David, pour Israël? Il a fait, même sous Achab et Jézabel, qui était une reine très très méchante et qui a détruit toute la succession royale, sauf un bébé d'un an, qui était caché par sa nourrice, amené et élevé, et à 7 ans rendu au temple comme roi. Est-ce qu'il a gardé encore de nos jours, cette promesse à David de lui donner la paix et la tranquillité? Un pays, quel autre pays sur la terre a été déporté et ramené dans son pays avec liberté, avec sa propre langue, après 2000 ans? Dieu garde ses promesses. Et cette promesse qui était faite à David dépasse même ses limites en Israël. Parce que de par Jésus-Christ, le fils de David, le Messie, que quand on ouvre l'évangile de Matthieu, on voit que c'est venu jusqu'à David, il est venu des entrailles de David, que c'est Jésus-Christ qui est le fils de David, qui est roi. Pas encore un roi physique, mais un roi spirituel qui règne sur les cœurs et qui donne la paix, même dans les troubles, qui donne la grâce, même face aux ennemis, aux difficultés, qui nous aime. Et c'est un roi qui règne, et ce règne est plus excellent que tout autre. Et quand il revient, Jésus-Christ, il régnera. À son retour, il régnera. Et tout genou, comme nous avons chanté, fléchira. Et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est celui qui règne pour l'éternité. Et à son règne, disent les prophètes, il n'y aura pas de fin. Dieu garde-t-il sa parole? Garde-t-il ses promesses? Je pense que oui. Et ça, nous sommes impliqués dedans. Parce que si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, si vous avez reçu ce pardon que nous avons invoqué dans les chants ce matin sur la croix, son pardon sur la croix, payé pour vous, vous avez une vie qui commence pour l'éternité. Le pardon de vos fautes, selon la Bible. Vous avez la présence de Dieu avec vous. Il ne vous quittera jamais. Et vous avez Dieu avec vous, comme il était avec David, tous les jours. Et les amis, mes frères et sœurs, ce sont les bénédictions, les choses extraordinaires que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et vous faites partie ainsi de la promesse de David. Cette promesse que Dieu avait faite à David pour être avec lui, pour bâtir une maison, c'est en Jésus-Christ, le fils de David, qu'il vous bâtit. Nous sommes cette maison, ses héritiers, de ses promesses, de la présence de Dieu, du règne de Dieu, et même pour l'éternité. Et quand il revient, il établira ce règne. Physique, mais pour l'instant, c'est dans nos cœurs spirituels, par la présence de Christ, par son esprit. L'autre côté. David a demandé, je te ferai une maison. Et Dieu lui dit, non, c'est moi qui te ferai une autre style de maison, mais une maison, pas un palais, mais une maison avec ma présence, avec ma grâce, avec ma bénédiction pour t'éduquer, te former, te fortifier. Et que faire quand Dieu dit non, donc, à nos plans? Quand Dieu les modifie, quand Dieu change? Qu'a fait David? Remarquable. David avait, dans le désert, un vœu pour Dieu, et Dieu lui dit non. Mais remarquons quand vous priez. Nous prions parfois pour que ça marche dans les affaires, ou que ça marche dans la famille, et qu'il y ait un enfant ou un conjoint qui suive le Seigneur. Et Dieu, il dit non, il n'a pas encore répondu. Mais regardons ce nom. Ce nom était, non, c'est pas toi, c'est ton fils. Mais en même temps, ce nom n'était pas un nom, je ne suis pas là, je suis absent. C'était un nom, je suis très présent. C'était un nom, et parce que j'ai une autre chose à te donner. Fais-moi confiance. C'est ça qu'il dit. Et c'est là où parfois c'est vrai que nous pouvons demander, mais si nous avons un cœur comme David, humble, reconnaissant, pour les bonnes choses que Dieu nous donne déjà, dans sa présence, sa grâce, son amour, les frères et les sœurs, les amis, pour nous accompagner quand on a un genou par terre et on pique de nez, ou qui nous entoure, qu'on prie pour nous, qu'on nous entoure, il y a de belles choses. Et quand Dieu dit non ou quand Dieu dit autre chose, c'est un Dieu qui nous aime énormément. Et c'est le Dieu de Jésus-Christ qui a crucifié son Fils. Et on a dit, à quoi ça sert un Messie mort? Ce n'est pas le Fils de David le crucifié. Et les Israélites qui attendaient cette délivrance, ce Fils de David, ils attendaient un Messie qui arrive avec une épée à sa main, comme David, pour les libérer des Romains. Et Jésus a dit non, ma liberté est autre. C'est de la paix, c'est une liberté du cœur et de l'amertume et de la haine et du péché qui nous entrave. Et une liberté de marcher libre du cœur. quelles que soient les circonstances. Dieu dit-il non? Quand il dit le non, c'est parce qu'il le oui est là. Et si nous avons un commun cœur comme David pour dire, d'accord Seigneur, parle, que veux-tu? C'est là où Dieu, il fait. Il fera pour vous, quelle que soit votre demande ou votre requête, auprès de lui-même s'il met ça en attente. Il veut aussi vous bénir. Et le non n'est pas un manque de sollicitude ou un manque d'intérêt pour vous, ou un manque d'amour, aucunement. Dieu garde sa promesse. Il peut les réarranger. Il peut les déployer comme il les veut. Mais Dieu, il nous aime et il le fera. Alors, la réponse de David à ce nom, ce roi, dans son palais. Verset 18. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel. Tout simplement, il a quitté son palais, il est allé trouver la tente ou l'arche sous la tente. Il est entré, il avait cette face-à-face vis-à-vis avec Dieu. Et il voulait lui parler. Dieu qui voulait lui dire quelque chose. Mais quelque chose d'extraordinaire. De merveilleux. Et il se place donc devant ce Dieu. Et il dit, mais d'abord, verset 18, « Seigneur éternel, qui suis-je ? Qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Et comment, si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à un humain ? Que pourrais-je te dire de plus, Seigneur éternel ? Tu connais toi-même ton serviteur. » Et ça, c'est pourquoi Dieu a béni David. Parce que face à ce nom, David va chercher ce Dieu parce que le nom, il a compris, c'était un oui, différemment. Et il va chercher l'Éternel, il se soit devant lui parce qu'il avait besoin de lui parler, de le regarder à son visage et de savoir, Dieu, tu fais quoi? Tu fais quelque chose ici et j'ai besoin vraiment de savoir ce que tu fais et de te le dire. Et il n'a pas resté dans son palais sur le il m'a dit non. Il est descendu et lui parlait. Et quand il commence avec qui suis-je, l'Éternel, Seigneur éternel, il se rappelle tout naturellement et tout simplement de qui il est. Et si on vous dit sans Dieu, où vous serez? S'il n'y avait pas Dieu quelque part sur votre chemin qui vous est accompagné, entouré, relevé quand on baisse les bras ou quand on tombe, nous pardonner. Donc Dieu, il reconnaît, il dit, qui suis-je? Et de temps en temps, on peut se le dire et le dire à Dieu par reconnaissance pour qui il est et ce qu'il fait. Il commence par Dieu. Voilà. C'est parce que tu l'as promis, verset 22, et que tu en as décidé ainsi, que tu as accompli ces grandes choses, et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur, que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme Israël, ton peuple? Que des dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et le rendre célèbre, en accomplissant pour eux et en faveur de ton pays des choses grandes et redoutables. N'as-tu pas chassé d'autres nations avec leur Dieu devant ton peuple que tu as libéré pour toi de l'Égypte? Tu as établi ton peuple, Israël, comme ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc. Et c'est là où David, il en est très très conscient que c'est Dieu qui agit, Dieu qui fait. Et je cherche à l'apprendre. Pour vous. Que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et je cherche, comme David, à apprendre que Dieu agit, et que Dieu fait, et que Dieu a décidé. Et moi, je suis quelque part un spectateur dans ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu. Et d'apprendre, en tant que responsable d'une église, à simplement me détacher et dire d'accord. Merci, gloire à toi, quand ce que tu fais, les vies que tu amènes vers toi, la grâce que tu fais déborder sur ton peuple. Et c'est toi. Et Dieu, David a donné gloire à Dieu. Mais après, ça reste quand même des promesses. Et quand il y a des promesses, parfois, elles nous dépassent. Et là, on voit le côté guerrier, le côté combattant de David, où il était autant le berger humble, maintenant, il devient combattant. Et il se lève au verset 25. « Maintenant donc, Éternel Dieu, veuille toujours tenir ta promesse que tu as faite à ton serviteur, à sa dynastie. » Oui, veuille l'accomplir. Ainsi, tu seras éternellement exalté. L'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, est le Dieu d'Israël et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, ô Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette parole. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vraies, tu as promis ce bonheur à ton serviteur. Veuille donc, à présent, bénir ma dynastie, qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as fait la promesse. Et c'est grâce à ta bénédiction que la dynastie de ton serviteur sera bénie à jamais. Parfois, il est facile de s'écrouler. Et de dire, mais Seigneur éternel, toi, tu as fait. Et d'en rester là. Mais David, il dit, toi, tu as promis. Et quelque part, avec courage, il dit, j'accepte cette promesse. Pour moi, pour ma famille. J'ose la croire. Et Seigneur éternel, bâtis donc. C'est toi qui l'as dit, bâtis ta dynastie. Quelles sont les promesses qui sont difficiles à croire? Les promesses que Dieu nous donne avec courage, les deux mains à les prendre, à les accepter, à les vivre, parce qu'il est Dieu. Et parce que c'est lui qui les promet. Ça peut prendre une réponse d'une autre forme, à son temps, de sa manière. Mais quand il promet, David a osé accepter parce qu'il est face devant Dieu, il connaît Dieu, il a reconnu ce que Dieu a déjà fait pour lui, et humblement il le remercie, courageusement il avance. Et c'est là où, pour chacun, un défi. De reconnaître dans le passé ce que Dieu a déjà fait pour nous. De ne pas l'effacer, de ne pas l'oublier. Ou ce que Dieu fait pour nous. De venir humblement, c'est toi qui as fait pour moi, c'est toi qui fais et qui me fais, de le remercier. Parce que c'est cette personne-là que Dieu bénit. Et puis les promesses que Dieu donne. Peut-être que nous avons des prières qui ne sont pas encore exaucées, ou peut-être les prières qui sont partiellement exaucées. Et nous voyons quelques chapitres plus tard que David, il se lève, il commence à mettre de côté dresser des plans pour le temple. Il commence à recueillir des moyens pour bâtir un temple. Alors, David, pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est par lui. D'accord. Mais David, qui avait un cœur pour Dieu et les choses de Dieu, s'est investi pour Dieu. Et dans quelques pays en Afrique, je sais, on veut qu'on plante des arbres, mais en même temps, on peut se dire, mais ce n'est pas moi qui va bénéficier de cet arbre. Pourquoi planter un arbre et on fait de la déforestation pour avoir du charbon pour faire cuire. J'ai passé 9 ans au Tchad. Et c'est là où, quelque part, ayons cette grâce et cette force de dire, si Dieu veut se servir de nous, quelque part, lèvons-nous. Bâtissons. Sèmons des graines de paix, de bonté, de réconciliation, de grâce, qui vont pousser, et peut-être que cette génération, peut-être qu'on la verra, le fruit, peut-être que je mangerai, peut-être pas. Mais David savait qu'il ne mangerait pas, et pourtant, il s'est investi pour bâtir. Et Dieu a béni David. Et plus tard, quand Salomon dit, mon père avait au cœur de bâtir un temple, Salomon a donné le crédit à son père quelque part. Mais pour nous, quoi que Dieu vous demande à faire, quelle que soit l'issue, l'arrivée, ou la tournure que Dieu peut donner, ayez un cœur large comme David pour bâtir, servir. Et au cœur, les choses de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous bénit. Et par réponse, en réponse et par reconnaissance, à vouloir bâtir, à vouloir construire. Ce matin, peut-être que vos cœurs sont dans la joie pour certains bienfaits de Dieu. J'espère que oui. Que déjà Dieu, il agit en vous et il vous amène vers lui. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une promesse qui commence et qui a des amplifications, les ramifications éternelles et aussi larges pour vous et pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amis. Mais parfois, Dieu aussi, il répond autrement nos prières. Cherchons à écouter son oui, qui est énorme pour chacun de nous. Et finalement, avec courage et humilité, acceptons ce que Dieu fait, c'est Dieu. Et puis, saisissons ses promesses de ce que Dieu veut faire en vous, pour vous. Parce qu'il est Dieu. Et si vous avez un cœur par reconnaissance pour le bénir, pour le remercier, il reste Dieu et son cœur pour vous bénir. reste immesurable. Il tient sa parole. Père éternel, merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour Jésus-Christ, le fils de David, le Messie, promis, qui est venu pour régner un règne de paix, de consolation, de force, de liberté, face à quelque circonstance qui soit, et un règne éternel. Merci pour, parce que tu bénis déjà ton peuple en les conduisant vers toi pour régner. Et Jésus-Christ est plus grand que David, mais David déjà, il a voulu faire de bien, mais Jésus-Christ, il fait ce bien, le fils de David, à chacun de nous. Chaque personne qui le reçoit, qui se tourne vers lui, qui lui permet d'agir dans sa vie. Et merci. Et donc, tu connais aussi les projets, les plans, les déceptions, les découragements. Mais aide chaque personne qui pourrait en être là de ne pas y rester. De comprendre là où tu dis peut-être un non ou une autre chose, de comprendre le oui que tu as pour eux. Et que cet oui dépasse largement les attentes. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est venu accomplir en partie déjà ses promesses, en mourant là sur la croix pour nous décharger de nos fautes, de nos péchés, pour nous donner la vraie liberté, le pardon. Nous voulons dire, comme David, simplement, nous sommes là devant toi ce matin pour nous asseoir, à t'écouter, à te chercher, à comprendre ce que tu veux nous dire. Donne-nous aussi le courage de nous lever là où tu as d'autres promesses à nous dire. Parce que tu es un Dieu qui est immesurément bon et qui est béni. Au nom de Christ, nous te le prions. Amen. Saluez-vous les uns les autres, allez dans la paix et la grâce de Jésus-Christ qui vous accompagne.